l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Comme nous l'avons annoncé dans l'émission précédente, Mgr Callistos Ware, importante personnalité de la spiritualité orthodoxe contemporaine, a donné mardi dernier, à Paris, une conférence magistrale sur le thème « La transfiguration du Christ et la souffrance du monde ». Nombreux ont été les participants à cette rencontre, organisée par les éditions Le Sel de la Terre en collaboration avec les éditions du CERF, qui ont publié déjà 5 de ses ouvrages. Mgr Callistos est notre invité d'aujourd'hui. Né en 1934 dans une famille anglicaine, Timothy Ware a découvert dès sa jeunesse l'Église orthodoxe, qu'il a rejoint à l'âge de 23 ans. Ensuite, en devenant moine orthodoxe, il a reçu le nom de Callistos. Après avoir fait des études en langue classique et un doctorat en théologie à l'Université d'Oxford, il a donné des cours d'études orthodoxes orientales à la faculté de théologie de la même université. En 1982, il a été ordonné évêque auxiliaire de Dioclea, au service du diocèse grec de Grande-Bretagne. Théologien de renom, Mgr Callistos Ware est auteur de plusieurs classiques de la littérature orthodoxe, qui allient souffle spirituel et clarté pédagogique. Une nouvelle édition de son livre « Approche de Dieu dans la voie orthodoxe », précédée d'une autobiographie inédite, vient de paraître aux éditions Le Sel de la Terre. Nous avons d'abord demandé à Mgr Callistos comment il a découvert l'orthodoxie.
Mon première rencontre avec l'orthodoxie, c'était quand j'avais 17 ans. Je suis allé par hasard, ou plutôt par providence divine, à l'église russe à Londres. Mais je ne savais pas que c'est une église russe. Je suis allé seulement par curiosité. C'était samedi après-midi, quand je suis entré dans l'église, il y avait l'office des vigiles, et j'ai compris que ce doit être une église russe, même si je n'ai pas compris les mots de l'office, parce que tout était en vieux slavon. C'était l'année 52. J'étais très impressionné de cet office. J'ai trouvé que les vigiles, pour moi, étaient vraiment une révélation du royaume des cieux. J'ai vraiment senti que l'Église en prière est le ciel sur la terre. Et nous n'étions pas beaucoup de monde, une très petite congrégation des personnes âgées. J'ai compris que nous prenons partie dans une action beaucoup plus grande que nous. Et de ce moment-là, j'ai voulu devenir orthodoxe. Mon premier contact, c'est-à-dire avec l'orthodoxie, n'était pas avec les livres, ni avec des contacts sociaux avec des personnes orthodoxes, mais c'était un contact avec la vie liturgique de l'orthodoxie. Et je pense que cela est la meilleure porte d'entrée. Alors je suis attendu 6 années avant de devenir orthodoxe. Je ne suis pas devenu immédiatement. Ce n'était pas très facile pour des Anglais de devenir orthodoxes à cette époque-là. Maintenant, en Angleterre, nous avons plus que 50 prêtres orthodoxes d'origine anglaise. Mais pendant les années 50, il y avait peut-être un seul prêtre anglais orthodoxe. Et à cause de cela, c'était assez difficile d'entrer, mais j'ai insisté, et alors je suis reçu dans la cathédrale grecque à Londres en l'an 58. Après de devenir orthodoxe, j'ai terminé mon doctorat dans l'université à Oxford sur l'histoire du monachisme ancien et surtout sur les œuvres de Marc Lemoine. Et j'ai connu le nouveau archevêque orthodoxe grec qui est venu en Angleterre en 64, Athénagoras. Je suis devenu son secrétaire pour les choses anglaises. Il m'a ordonné diacre. Je suis allé pour une année à Patmos, au monastère de Saint-Jean le théologien. Là, je suis devenu moine, et après, en l'an 66, je suis revenu à Oxford comme lecteur pour les études orthodoxes dans l'université. Et on m'a ordonné prêtre, j'ai fondé la paroisse grecque à Oxford, mais nous avons eu toujours une coopération très étroite avec la paroisse russe. Et ensemble, les deux paroisses, nous avons construit une église en 73. Et je suis resté à Oxford comme professeur pour 35 années. Maintenant, je suis à la retraite, mais je continue à être évêque auxiliaire dans l'archidiocèse grecque. Et je voyage en Angleterre à des paroisses anglophones dans notre archidiocèse.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and ever and unto ages of ages. Amen.
Monseigneur Callistos, vous avez écrit de nombreux ouvrages de théologie orthodoxe, vous avez approfondi les écrits patristiques et vous avez essayé d'actualiser leurs réponses par rapport à notre époque contemporaine. Quel est le sujet qui vous est le plus cher parmi toutes ces recherches que vous avez entreprises dans la théologie orthodoxe?
Ce qui est la chose la plus précieuse pour moi, c'est la tradition de la théologie mystique, la philokalie, la prière de Jésus, l'invocation du Saint-Nom, et la théologie de Byzance au XIVe siècle, la Renaissance hésychaste au XVIIIe siècle. Ça sont les sujets que m'ont attiré le plus.
Vous avez donné une conférence magistrale sur le thème la transfiguration du Christ et la souffrance du monde. Je vous prie de nous parler sur la relation qu'il y a entre la transfiguration du Christ et la souffrance.
Oui, dans ma conférence, j'ai posé cette question. Si nous parlons de la beauté divine, si nous parlons de la gloire de la transfiguration, qu'est-ce que c'est que cela dit à nous dans un monde plein de souffrance innocente et de désespoir? Et dans ma conférence, j'ai insisté sur le lien entre les deux collines, Tabor et Golgotha, que la transfiguration doit être comprise dans la lumière de la croix. Il y a un seul mystère, mystère de gloire, mystère de sacrifice et de souffrance. Alors, j'ai trouvé dans le récit de la Transfiguration assez de références à la crucifixion. Et j'ai dit que ici, nous trouvons la vraie réponse au mystère de la souffrance innocente. Le Christ qui est le Seigneur de gloire souffre avec nous dans la crucifixion. Et il faut voir ces deux choses ensemble, la transfiguration et la crucifixion. Celui qui souffre est vraiment homme, mais il est aussi le Seigneur de la gloire éternelle.
Transfiguration, pas seulement dans le sens de la transfiguration du Christ, mais aussi dans le sens que par son sacrifice sur la croix, il a transfiguré la souffrance.
Oui.
Et il a ouvert la porte vers la résurrection.
Oui.
Comment on peut comprendre cette transfiguration de la souffrance par le fait que celui qui souffre sait assumer cette souffrance?
Oui. Je voudrais insister sur le mot mystère que j'ai utilisé. Parce que le mal, la souffrance innocente, ce n'est pas seulement un problème qui peut trouver sa solution avec la pensée claire et la logique. C'est un mystère et nous pouvons comprendre un peu le mystère de la souffrance seulement si nous sommes impliqués dans cela seulement par la participation et par la compassion. Alors exactement, c'est le sens de la crucifixion, que celui qui est vrai Dieu de vrai Dieu, consubstantiel avec le Père, est devenu homme, et comme Dieu incarné, il a accepté notre souffrance sur ses épaules. Il souffre avec nous. Nous ne sommes pas seuls, jamais. Nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. Parce que Dieu lui-même, Dieu incarné, partage notre souffrance. Mais cette souffrance peut être transfigurée parce que celui qui souffre avec nous n'est pas seulement un homme comme nous, mais il est aussi Dieu. Et à cause de cela, par la souffrance du Dieu incarné, nos souffrances sont transfigurées. J'ai donné comme titre à ma conférence la transfiguration du Christ et la souffrance du monde. Mais c'était bien possible de donner un autre titre, la souffrance du Christ et la transfiguration du monde. Comme nous disons, nous les orthodoxes, chaque dimanche à matin, à Orthros, par la croix, joie est venue à tout le monde. Par la croix, il n'y a pas d'autre chemin. Mais par la croix, joie et gloire vient dans notre vie. Comme cela, la beauté divine, c'est aussi la beauté d'un Dieu qui s'incarne et souffre avec nous.
Monseigneur Callistos, on a compris que par son sacrifice sur la croix, le Christ nous a montré la voie à suivre dans la souffrance, à assumer la souffrance pour pouvoir le transfigurer par l'aide du Christ lui-même qui souffre avec chacun d'entre nous. La société contemporaine nous propose une autre voie aujourd'hui par cette nouvelle loi qui concerne l'euthanasie, l'acceptation de l'euthanasie. C'est la voie du refus et de la souffrance et la choix de la mort. Du point de vue de l'Église orthodoxe, comment voyez-vous cette choix qui est maintenant posée devant les fidèles?
Bien entendu, comme orthodoxe, je suis tout à fait contre l'euthanasie. Nous n'avons pas le droit de terminer notre vie. Ça, c'est une décision qui dépend seulement du Dieu. La vie, même la vie avec beaucoup de souffrance, c'est toujours un don de Dieu et on ne doit pas rejeter ce don. Mais la souffrance en soi-même n'est pas bonne. Et si nous pouvons, sans compromis, éviter la souffrance, par exemple, avec les soins médicaux, c'est très bon. Être un médecin, c'est une vraie vocation chrétienne. Et partout, l'Église a fondé des hôpitaux avant que l'État a fait cela. Mais, il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter. On doit les accepter. Et si nous pouvons accepter la souffrance, tout est transformé, tout est transfiguré. La souffrance peut devenir créatrice en soi-même, c'est un mal, mais avec la prière, avec l'amour chrétien, avec ce geste intérieur d'acceptation, offrir nos souffrances au Christ en union avec la croix qui est très difficile, alors nous pouvons transfigurer la souffrance. Et ça, c'est la vraie voie, pas de terminer notre vie, mais de faire de notre vie un sacrifice vivant au Dieu. Tout peut être transfiguré, mais seulement avec la croix.
Alléluia, alléluia, alléluia. Thank you.
chers auditeurs, demain, lundi 15 novembre, commencera le carême de Noël. Ces 40 jours de jeûne sont une période de préparation spirituelle par l'exercice de la vertu de l'abstinence en vue de la grande fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La pratique orthodoxe du jeûne consiste dans l'abstinence des aliments à base de viande et de laitage. Le carême de Noël est plus léger que celui des Pâques, car à cette alimentation végétarienne s'ajoute le poisson chaque samedi et dimanche. Mais le jeûne n'est pas un simple régime alimentaire. Pour pouvoir se lever vers Dieu, il doit avoir ses deux ailes, la prière et l'aumône. Toutefois, en allégeant le corps, le jeûne facilite la prière. Bien sûr, loin d'être une loi imposée, le jeûne est proposé par l'Église orthodoxe pour aider les fidèles dans leur cheminement spirituel. Chacun jeûne selon ses possibilités, son zèle et son état de santé. Pour parler du jeûne, nous avons invité le Père Gérasim. Ancien photographe renommé d'origine française, il est devenu moine orthodoxe au monastère de Saint-Saba en Terre Sainte. En 1996, il a fondé le site Sainte-Foy à Saint-Julien-des-Points, dans les Cévennes, en France, où il vit actuellement. Il est aussi le fondateur de la Fraternité Saint-Martin, association chrétienne qui regroupe des artistes qui aspirent à témoigner de leur foi par un art de vivre. Cette fraternité édite la revue illustrée Art Sacré, qui donne des témoignages sur l'engagement des anciens, des conseils pratiques, des articles et des textes choisis pour la méditation et la prière. Nous avons demandé au Père Gérasim de nous parler de la signification du jeûne dans l'Église orthodoxe.
Le jeûne, c'est une grande chance que l'Église mère nous offre, c'est une pédagogie qu'elle nous offre, de pouvoir, quand on va bien, justement, entrer dans le jeûne. Le jeûne n'est pas lié à une famine ou à une pauvreté. Donc c'est volontairement qu'on va rentrer dans le jeûne, quand on se porte bien, pour rencontrer, donc pour provoquer en quelque sorte son être par des manques, par un manque de nourriture, ou par d'autres jeûnes, parce qu'il n'y a pas de la nourriture. Hein. Il peut y avoir le jeûne de cigarette, le jeûne de télévision, le jeûne de audio, etc. Donc on va volontairement provoquer des incidents en soi pour voir justement quelles sont nos dépendances, quelles sont nos passions qui nous masquent la présence, quelles sont les épreuves qui nous perturbent, quelles sont les anciennes blessures qui ressurgissent chaque fois qu'il y a une épreuve. Le jeûne, c'est une provocation, on peut dire, libre de tout son être. Mais le but du jeûne n'est pas la connaissance de soi. C'est pas pour une recherche de se connaître, pour être bien. Non, le but du jeûne, c'est de créer un vide en soi ou de créer un espace de silence, de paix, afin que l'esprit prenne racine. Donc le but du jeûne, c'est vraiment d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme à la puissance de l'esprit.
Le but du carême, c'est la purification de l'esprit, la purification des sens. Je vous prie de nous parler surtout sur la purification du regard, parce que avant d'être moine, vous étiez artiste photographe, c'est-à-dire vous avez beaucoup travaillé avec l'image. Et je pense que dans cette civilisation de l'image dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on a tous besoin de purifier notre regard.
Oui, nos yeux sont comme des fenêtres. Nos yeux sont comme des fenêtres, donc si la vitre est sale, eh bien tout le paysage extérieur est sale. Et si les volets sont fermés, on ne voit pas la lumière. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Donc le travail du jeûne, c'est de reconnaître ces voiles qui nous masquent la beauté de Dieu. Et en général, ces masques, c'est nos mémoires, notre imaginaire, c'est notre émotionnel, c'est toutes nos peurs, nos angoisses, nos désirs. Et on ne pourra pas les enlever aussi facilement, mais au moins déjà, il faut les reconnaître, les distinguer, les nommer. Et donc, afin d'ouvrir, on peut dire, l'œil du cœur, parce que si le volet est fermé, je ne vois pas la lumière. Et si j'ouvre le volet, je vois la lumière. Ce qui ne veut pas dire que je suis la lumière, mais le réceptacle de la lumière. Donc, c'est de purifier l'œil du cœur, afin de voir la lumière divine dans toute sa majesté. Donc, qu'est-ce qui va être matrice de la lumière ? Et ce qui est la matrice de la lumière, c'est la pureté. Donc, ça vaut le coup, pendant le carême, de travailler sur la pureté, mais en se rendant compte que ce qui masque la pureté, c'est mes impuretés. Donc, je vais travailler sur toutes mes faiblesses, avec diverses techniques. La première, c'est de me priver de diverses choses, de nourriture, etc. J'ai fait la liste tout à l'heure. Et de voir quelles sont toutes ces passions qui remontent et qui me masquent. Il y a l'autre chose aussi, c'est de le dire au Père spirituel, qui passe en discernement, va dire là tu manques d'eux. Moi par exemple quand mon père spirituel m'a dit non tu es trop affectif, pour moi c'est un bouleversement parce que l'affectif avant me faisait vivre, puis je travaillais dans le milieu artistique et je ne marchais qu'au niveau affectif. Et d'un seul coup je devais arriver à trouver une impassibilité qui n'était pas l'indifférence. hein, qui est une espèce de sérénité intérieure, hein, de voir les choses sans tomber dans les états d'âme. C'est un travail énorme pour moi, énorme, de remise en question, de souffrance, de désir de partir, d'arrêter, mais d'amour aussi plus fort que cette, ce désir de casser, afin d'essayer, je ne dis pas j'y suis arrivé, on n'y arrive jamais, hein, et d'essayer de purifier mon regard et de voir la chose sans la colorer de mes propres interprétations, de voir la lumière telle qu'elle est, d'aller voir des fois très loin dans certains pays, de voir certaines icônes pour voir la transparence, parce que la couleur de Dieu c'est la transparence, c'est pas le bleu, le vert, le rouge ou le jaune, c'est la transparence, et d'arriver à avoir des bleus transparents sous lesquels on sent la puissance, le souffle de l'esprit. Et on peut voir aussi dans le chant, par exemple, un certain moine quand il chante, il m'est arrivé d'aller au moins un jour à Jérusalem, parce que j'ai entendu un CD d'un moine quand il chantait, c'était pfff, l'impression qu'il était lui-même cathédrale. Et je suis allé voir ce père Nicolas, parce que quand il chante, il avait un souffle qui était porteur de la présence. Et c'est pas technique, ça. C'est au contraire, c'est une impassibilité, c'est une sérénité, c'est une transparence, c'est un lâcher-prise, c'est une ouverture, c'est un amour total, c'est une humilité, enfin c'est tout le contraire de ce que voudrait nous imposer le monde. Mais évidemment, pour lâcher-prise, il faut avoir. Donc on part d'abord de ses passions, peu à peu on les pacifie, sans en oublier l'intensité, mais on se libère de la substance, on se libère du fardeau, pour en garder que l'intensité, et cette intensité, on va l'unir à la lumière divine, au souffle de Dieu, et essayer après, quand je suis rempli, on peut dire, de la grâce, de l'incarner dans mon quotidien.
Auditeurs, vous êtes invités à participer à une nouvelle rencontre de l'atelier Approche de la Philokalie pour approfondir la lecture des chapitres sur la prière des Vagres le Pontique vendredi prochain, 19 novembre à 20h à la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, 91 rue Le Courbe dans le 15e arrondissement de Paris. Chers auditeurs, nous vous invitons à écouter toutes nos émissions précédentes sur le site internet de l'émission à l'adresse suivante ortradio.free.fr, je répète, ortradio.free.fr, et de nous écrire vos impressions à l'adresse électronique ortradio.free.fr, je répète, ortradio.free.fr. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra au Mont Athos et Saint-Antoine le Grand dans le Vercors et par la chorale Saint-Jean d'Amassène de Paris. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM.